Mesdames, messieurs, veuillez écouter Monsieur Édouard Daladier, président du Conseil des ministres.
Le 1er septembre 1939, après l'invasion de la Pologne par l'Allemagne nazie, Édouard Daladier s'adresse à la nation.
Français et Français, en nous dressant contre la plus effroyable des tyrannies, en faisant honneur à notre parole, nous luttons pour défendre notre terre, nos foyers et nos libertés.
Avec gravité, Daladier annonce à ses compatriotes que la France va entrer en guerre, et ce, malgré tous ses efforts.
J'ai conscience d'avoir travaillé sans trêve et sans répit contre la guerre jusqu'à la dernière minute.
20 ans après l'armistice de 1918, la France s'apprête à vivre un nouveau conflit armé avec l'Allemagne. Pourtant, les anciens combattants avaient juré, plus jamais ça. Or, la guerre est bien là à nouveau, et cette fois-ci, les femmes aussi vont être en première ligne.
Moi, je n'aime pas les cambrioleurs et les pillards. Et il y avait dans mon pays une bande de cambrioleurs et de pillards, c'était l'armée nazie. Et puis j'aime encore moins les gens qui aident les cambrioleurs et les pillards, et c'était le gouvernement de Vichy.
Comme tous les Français, nos cinq personnages ont grandi avec la mémoire de la Grande Guerre. Elle a même hanté leur jeunesse. Le père de Lucie Aubrac fut grièvement blessé en Alsace en 1915, et celui de Geneviève de Gaulle fut un capitaine valeureux sur les champs de bataille. Celui de Mila Racine fut témoin de la révolution bolchévique à Moscou en 1917. Le père de Simone Mathieu a été gazé sur le front. Et le beau-frère de René Davély, poilu lui aussi, est mort au combat sous les orages d'acier. Alors, à leur tour, comment nos cinq femmes ont-elles affronté le retour de la guerre en Europe? C'est la trame de ce nouvel épisode.
Ce que la Française supporte moins que tout autre, c'est l'ennemi chez elle. C'est de voir chez elle celui qu'elle n'y a pas invité. On ne s'impose pas chez une femme française.
Je m'appelle Philippe Collin et vous écoutez Les Résistantes. Troisième épisode, La drôle de guerre.
J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre.
Voyons, madame, vous, qu'est-ce que vous faisiez?
Moi, je distribuais des tracts et je fabriquais des fausses cartes d'identité.
J'ai fait des transmissions de consignes pour parachutage, des organisations de maquis.
Vous avez posé vous-même les pinces plastiques?
Avec des détonateurs que j'avais fabriqués moi-même parce qu'on en manquait.
Quelle était la raison qui vous animait?
C'était pour sauver son pays.
Le récit commence à l'aube d'une journée d'été.
Le 1er septembre 1939, Hitler annonce au Reichstag que depuis ce même jour, 5h45, l'Allemagne tire sur la Pologne. L'agression est commencée.
C'est le début de la Seconde Guerre mondiale en Europe. Avec l'invasion de la Pologne, Hitler amorce sa conquête du Lebensraum, autrement dit, un espace vital à l'Est, comme un biotope nazi indispensable à l'instauration d'un Troisième Reich qui doit durer 1000 ans. Mais par le jeu des alliances, le Royaume-Uni et la France s'interposent et déclarent la guerre à l'Allemagne.
En France, les murs se couvrent d'affiches rappelant des réservistes.
En France, on décrète la mobilisation générale.
Immédiatement, les hommes rejoignent leur centre mobilisateur.
On va tous aller se faire tuer. Les pacifistes comme les autres.
Première question. Dans quel état d'esprit est le pays?
Alors, la France est dans une certaine mesure résolue. Je ne dirais pas que la guerre lui fait plaisir.
Olivier Vieviorca, historien.
Ce que le Français moyen accepte, c'est de faire son devoir. La guerre est déclarée, il faut faire la guerre et la gagner le plus vite possible et retourner chez soi. Donc vous n'avez pas du tout, comment dirais-je, de fièvre. un délire patriotique qui s'empare des Français, comme vous n'avez pas de délire patriotique qui s'empare des Allemands. Les Allemands ne sont pas du tout satisfaits que la guerre éclate. Vous n'avez pas des manifestations de joie qui éclatent à Berlin.
Alors, au moment où la France entre en guerre, où se trouve Geneviève de Gaulle ?
En septembre 1939, Geneviève commence ses études d'histoire à la faculté de Rennes.
L'historienne Frédérique Naud-Dufour.
Donc c'est une jeune étudiante qui veut devenir chartiste, comme son arrière-grand-père Julien-Philippe de Gaulle. Alors, elle commence ses études d'histoire et au même moment, en septembre 1939, son père, Xavier de Gaulle, donc ancien officier de la Première Guerre mondiale, hein, il avait été mobilisé à l'époque, est de nouveau mobilisé, cette fois comme officier de réserve, dans l'artillerie, et il doit rejoindre un régiment qui se trouve alors à Couët-Quidon. Et il va déménager, il va prendre une location près de Couët-Quidon, à Paimpont, en Bretagne, donc, avec Armelle, sa femme, et les deux enfants de ce nouveau mariage, et puis Geneviève et Roger qui y vont de temps en temps également.
Roger, c'est le frère puiné de Geneviève, avec qui elle a grandi en Sarre. Geneviève de Gaulle traverse donc cette épreuve en famille, ce qui n'est pas du tout le cas de Simone Mathieu. La joueuse de tennis est alors très loin de ses enfants.
En 1939, Simone Mathieu prend le bateau pour aller aux États-Unis. Elle est numéro 3 mondiale.
Éric Allary, historien.
Et elle est vraiment au sommet de sa carrière, au sommet. Et là, elle est proche de devenir numéro 1 mondial. Il lui suffit de gagner 2 ou 3 tours à l'US Open, donc aux États-Unis. Et donc, arrivant aux États-Unis, elle joue un tour et elle apprend que la guerre est déclarée entre France, Allemagne, Angleterre. Et donc, elle décide de prendre un bateau pour retourner en Europe. Certainement en France à l'origine, mais son bateau s'arrête en Angleterre, sur les côtes anglaises, et elle est reçue par une amie anglaise.
En France, les semaines passent, mais le conflit armé ne s'engage pas. Une situation étrange, au point qu'Édouard Daladier, président du Conseil, s'adresse à nouveau à la nation.
Il faut avant tout comprendre clairement les événements.
Archives RTF, 1939.
La forme actuelle de la guerre peut dérouter les hommes les plus avertis. Elle ne répond en rien aux prévisions que l'on avait pu faire. Au lieu de se déchaîner avec violence sur de vastes fronts, au lieu d'être poussé à fond avec tous les moyens que la technique moderne met à la disposition des armées, elle en est encore, sur le plan terrestre, au stade de l'attente.
Alors la drôle de guerre, c'est au fond que les hostilités sont déclarées, la France est en état de guerre, en état de belligérance, comme le Royaume-Uni, mais que vous n'avez aucune opération, quasiment, jusqu'à l'offensive allemande du 10 mai 1940.
Olivier Wiewiórka.
Donc cette drôle de guerre, effectivement, elle va avoir ici encore un double effet. D'une part, incontestablement, elle permet à la France de continuer à plus produire de chars, d'avions, bref, de se préparer au combat. De l'autre, ce qui est assez incroyable, il faut rappeler que l'inaction est l'une des plus grandes ennemies du soldat. Cette inaction démoralise, émousse la combativité.
On s'en aurait eu droit à la ligne Belgique.
Va donc nous chercher à boire.
Oui, mon lieutenant.
Et surtout que l'armée ne va absolument pas profiter de cette drôle de guerre. Et là, les témoignages abondent et sont accablants pour entraîner les hommes. Ce qui veut dire que lorsque l'offensive allemande du 10 mai 1940 va se déclencher, eh bien les hommes n'auront pas entendu le son du canon, les hommes n'auront pas entendu le bruit des avions. Les hommes ne seront absolument pas prêts, au fond, à encaisser le choc de la Blitzkrieg.
La Blitzkrieg, c'est la guerre éclair.
Il ne faut pas oublier non plus que cette drôle de guerre va aussi aider l'Allemagne. Parce que la campagne de Pologne a bien évidemment été relativement facile, mais elle a été aussi relativement meurtrière pour l'Allemagne. Beaucoup de chars sont tombés en panne, vous avez eu quand même des dégâts, donc l'outil militaire s'est relativement émoussé. Donc la drôle de guerre profite bien entendu à la France et au Royaume-Uni, mais elle profite aussi à l'Allemagne, qui va profiter de ce répit pour reconstituer son outil militaire.
Alors que les soldats allemands et français se toisent de chaque côté du Rhin, Simone Mathieu, elle, découvre que le Royaume-Uni lui offre une opportunité.
Elle s'aperçoit qu'en Angleterre, les femmes peuvent entrer dans l'armée, ce qui n'est pas le cas dans l'armée française.
Éric Allary.
À chaque fois que l'armée française a utilisé les femmes, que ce soit en 14-18 ou même en 1939, c'est simplement pour des tâches subalternes, sans port de l'uniforme. Donc, elle va s'engager dans le service des volontaires féminins de l'armée anglaise et elle va donc faire un certain nombre de missions, notamment au Pays de Galles, entre le mois de novembre 1939 et le mois de juin 1940.
Pendant que Simone Mathieu s'engage dans l'armée anglaise, Renée Davély, chanteuse française en devenir à Buenos Aires, est rentrée à Paris. Et elle n'est pas au mieux.
L'été 1939, pour elle, est un été dramatique. Et pas en raison de la guerre.
Olivier Loub est historien.
En fait, c'est un été où elle se trouve replongée dans la précarité possible parce que son ami meurt d'une appendicite de façon assez subite.
Charles, l'amant et protecteur de René, est mort du jour au lendemain. Et donc, quand la France s'apprête à entrer en guerre, son monde s'est écroulé.
Et ça s'écroule de façon d'autant plus raide pour elle qu'en fait, elle a engagé des frais pour partir un mois en tournée au Levant. Elle embarque à Marseille pour aller au Caire, à Alexandrie et à Beyrouth. C'est un autre cran dans son parcours de chanteuse et de vedette. Elle répond là à un engagement qu'elle a signé à Paris avant de partir. Et pour ça, elle a fait des frais. Des frais, elle le dit, de publicité, de costumes, etc. Et là, c'est son ami qui devait payer.
Bouge plus.
Elle peut pas. Donc elle part, il faut réussir.
Lève-toi maintenant. Une grosse tête pour finir. Tu es prêt ? Minute.
La nouvelle de la guerre, on n'en a pas de traces, les échos que ça a pu avoir dans sa vie, parce que sa vie à ce moment-là, c'est « il faut que je chante, que j'ai des engagements et que je ne cesse d'avoir des engagements pour vivre ».
Merci.
Terminé ?
Épatant.
Chic alors ! Ah, je commence à avoir ma claque. Est-ce que ça peut être casse-pied, les photographes ?
Décidément, c'est un plaisir de te rendre service.
Ainsi, après l'Amérique du Sud, Renée Davély débarque en Égypte pour lancer sa carrière de chanteuse. Était-ce saugrenu d'avoir une telle idée en 1939 ?
Alors, ce qui était habituel, c'est que des vedettes confirmées en France, au Caire par exemple, Damia passe 2 ans, 3 ans avant. Vous avez à peu près toutes les vedettes de la chanson française qui vont aller, parce qu'il y a un milieu francophone, francophile en Égypte, très bien.
Mais Renée Davély n'est pas une vedette. Disons qu'elle envisage l'Égypte comme un tremplin. Elle se dit qu'en écumant les cabarets du Caire, elle pourrait bien devenir célèbre en France. Or, la guerre va la rattraper.
Bonjour Lucie.
Chez Lucie Aubrac, cette drôle de guerre n'entrave en rien ses projets de mariage avec Raymond Samuel, jeune officier du génie, mobilisé sur le front.
Et maintenant, les anneaux, s'il vous plaît.
On se marie en drôle de guerre comme on se marie en temps normal, j'allais dire. C'est-à-dire, oui, il y a une permission et le mariage a lieu dans l'intimité.
L'historien Laurent Douzou.
Avant de se prendre la décision de se marier, ils ont pris une autre décision capitale. Lucie Aubrac avait obtenu la bourse David Veil. Elle pouvait donc partir le 4 septembre 1939 pour les États-Unis. Et lui, Raymond Samuel, qui était ingénieur et qui avait étudié au MIT à Boston, pouvait aussi obtenir un visa. Et ils ont tous les deux décidé de ne pas partir aux États-Unis en septembre 1939 et de rester en France puisque c'était la guerre, qu'ils avaient des proches en France et qu'ils ne voulaient pas échapper à la guerre. Donc quand ils se marient, je dirais que c'est la conséquence de la décision qu'ils ont prise 3 mois plus tôt de rester en France et de participer à l'effort de guerre.
Précisons, Laurent Douzou, c'est important que Raymond Samuel est de confession juive.
Ce qui est extrêmement important dans le contexte de 1939-1940, dans une France où l'antisémitisme est tout de même très présent, et puis avec l'instauration de l'État français installé à Vichy sous la férule du maréchal Pétain, il est clair que la qualité d'israélite de Raymond Samuel va être un facteur très important des décisions qu'ils prendront.
Pour clore ce premier chapitre, nous ignorons où se trouvait Mila Racine en 1939. Notre cinquième personnage ressurgit dans les archives au mois de juin 1940. Mila Racine est à Paris lorsque les troupes allemandes entrent dans la capitale. Après des mois d'observation, le 10 mai 1940, la Wehrmacht se lance à l'assaut de la France.
En très grand nombre, villes ouvertes de Belgique et de France ne vivent plus qu'au régime de l'alerte.
Très vite, l'armée française est en faillite. Une débâcle, une étrange défaite, écrira l'historien Marc Bloch. Et devant l'avancée fulgurante des chars du général Guderian, les populations belges et françaises prennent le chemin de l'exode. 4 millions de Français se jettent sur les routes.
En files interminables, les réfugiés continuent d'affluer sur les routes qui conduisent vers l'intérieur de la France. L'irruption soudaine des hordes hitlériennes leur a laissé à peine le temps de réunir les objets les plus précieux et les plus utiles. Ils fuient devant l'ennemi qui ne respecte ni la vieillesse ni l'enfance.
Au cœur de ce chaos, où se trouve Geneviève de Gaulle ?
Alors, elle se trouve en Bretagne au printemps 1940 et elle est touchée directement, comme beaucoup de Français du reste, hein, par le chaos de la campagne de France.
Frédéric Naud-Dufour.
Puisque son père a été fait prisonnier en Allemagne et il ne sera libéré que le 27 février 1941 en tant qu'ancien combattant et grand blessé de la Première Guerre mondiale. Toute cette famille de Gaulle se retrouve sur les routes de l'Exode et va rallier la Bretagne. Par exemple, Yvonne de Gaulle, qui était à Colombey-les-Deux-Églises, après un périple à travers la France, arrive avec ses enfants chez sa sœur Suzanne à Carantec. Et au même moment, Geneviève se retrouve avec Armel et les enfants à Pimpon, la ville où ils vivent dans cette location. Et face à l'avancée allemande qui semble toujours plus pressante, ils vont gagner Locminé avec Jeanne de Gaulle, la maman du général qui a rejoint aussi sa famille dans l'ouest de la France.
J'étais en Bretagne au moment de l'arrivée des Allemands.
Geneviève de Gaulle, 1950.
Et c'est vers le 16 juin, je crois, que nous avons été repliés vers le Morbihan. C'est là aussi que nous avons rencontré les premiers Allemands, ces vainqueurs sûrs d'eux-mêmes, avec leurs motocyclettes, leurs casques noirs. Ils sont passés avec mépris devant ces hommes rassemblés sur la grande place de ce village de Locminé. J'ai encore tout à fait présent au cœur et à la mémoire ce sentiment d'humiliation profonde que nous avons éprouvé en voyant les vainqueurs avec tout leur mépris.
La Wehrmacht s'est abattue sur la France comme un essaim de frelons. Et le 17 juin, c'est la stupeur nationale.
C'est le cœur serré que je vous dise aujourd'hui qu'il faut cesser le combat. Je me suis adressé cette nuit à l'adversaire pour lui demander s'il est prêt à rechercher avec moi, entre soldats, après la lutte et dans l'honneur, les moyens de mettre un terme aux hostilités.
Le discours du 17 juin 1940 de Philippe Pétain marque tout simplement l'idée, et ce, au plus haut niveau de l'État, que la guerre est finie.
Olivier Vieviorca.
Donc il faut cesser le combat et trouver avec l'Allemagne nazie un modus vivendi. Donc c'est véritablement un discours d'abandon, en aucun cas un discours de résistance.
Quand j'ai entendu le maréchal Pétain le 17 juin 40, de ce moment-là j'ai trouvé insupportable la défaite, l'acceptation de la défaite.
Le lendemain, comme la réponse du berger à la bergère, un autre militaire français s'exprime sur les ondes.
Les gars, il y a un général français à Londres qui a fait un discours incroyable.
Quel général ?
Général de Gaulle.
Avec un nom pareil, il ira pas loin.
C'est peut-être pas son vrai nom ?
Ah si, c'est son vrai nom.
Si, si, il a été ex-secrétaire d'État dans le dernier gouvernement.
Non mais écoutez-moi.
Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. Demain, comme aujourd'hui, je parlerai à la radio de Londres.
Dans la légende gaulliste ou gaullienne, c'est l'appel du 18 juin qui marque la naissance de la résistance, et il faut souligner que le terme de résistance apparaît dans le discours du général de Gaulle. Mais quand on lit relativement attentivement le magnifique appel du général de Gaulle, on constate qu'il n'est en aucun cas question de résister sur le territoire national. Ce que le général de Gaulle appelle, c'est tout simplement les Français à le rejoindre à Londres. Donc le pari du général de Gaulle, c'est de construire un État, parce que le général de Gaulle connaît l'histoire de France, et sait qu'en France, l'État a précédé la nation. Cet État est en quelque sorte prisonnier, captif, en métropole, et bien on va le reconstruire, d'abord sur les rives de la Tamise, et ensuite à Alger. Bon, mais il n'est pas question, si vous voulez, d'imaginer dans l'esprit du général de Gaulle une guerre subversive, comme Churchill pourra la concevoir.
Alors, on sait que Geneviève de Gaulle n'a pas entendu le message du 18 juin lancé depuis Londres, comme d'ailleurs la grande majeure partie des Français.
Frédéric Naud-Dufour.
Et ce n'est que le lendemain que Geneviève de Gaulle entend parler de ce message. Et la scène qu'elle raconte elle-même dans certains témoignages est tout à fait cocasse, puisqu'elle est avec sa grand-mère, Jeanne, la mère du général de Gaulle, sur la place de Locminé, en Bretagne, quand il croise le curé. Alors le curé, pour les de Gaulle, c'est quelqu'un d'important hein, pour ces catholiques. Donc il discute avec cet abbé, l'abbé Thouet. Et l'abbé Thouet leur fait part de ce qu'il a entendu à la radio, une espèce de général qui a appelé à la résistance et qui en plus s'appelle de Gaulle. Et à ce moment-là, Jeanne de Gaulle bondit et elle agrippe ce pauvre curé par la manche en lui disant « Mais c'est mon fils, monsieur le curé, mais c'est mon fils !» Donc c'est ainsi qu'elles apprennent l'existence de ce message. Et il faut dire un petit mot quand même de cette grand-mère qui, je pense, a été à la fois une inspiration pour Charles de Gaulle, parce qu'elle lui a apporté ce patriotisme, cette foi catholique fervente, mais certainement également pour Geneviève. C'est une figure féminine d'importance par sa solidité, par sa rigueur. Et cette Jeanne de Gaulle meurt le 16 juillet 1940, donc quasiment un mois après l'appel du 18 juin. Et ce qui est très émouvant, c'est que les nazis ont interdit de mettre le nom sur la tombe. Ils ont interdit qu'il y ait une quelconque manifestation d'empathie, qu'on mette des fleurs. Et cette tombe va devenir un des premiers lieux d'expression d'une forme de résistance, puisqu'elle va être couverte de fleurs pendant toute la durée de la guerre. Et Geneviève de Gaulle, d'ailleurs, enverra à son oncle Charles à Londres une photo de cette tombe de Jeanne couverte de fleurs.
Geneviève de Gaulle pour la Fondation de la Résistance, 1980. L'esprit du 18 juin, c'est d'abord le choix de l'essentiel, quels que soient les obstacles et les circonstances, et quoi qu'il puisse en coûter. L'esprit du 18 juin ne sera jamais celui des gens moyens. C'est le refus de la médiocrité pour la France.
Ce 18 juin 1940, Simone Mathieu, auxiliaire de l'armée anglaise, est en mission au Pays de Galles.
Elle apprend le 19 juin 1940 qu'un général français a prononcé un discours pour appeler à la résistance.
Éric Allary.
Et elle revient très très vite à Londres et elle demande immédiatement à rencontrer cet homme-là ou son entourage pour pouvoir faire quelque chose. Elle ne sait pas quoi évidemment, mais quelque part, elle a dans l'idée tout de même que des femmes peuvent apporter une aide à l'armée, certainement pas une aide armée, parce qu'elle sait très bien que, de toute façon, le rôle de la femme dans une armée ne sera qu'administratif.
Simone Mathieu, dans le magazine France, le 11 décembre 1940. Je m'honore d'être une des toutes premières parmi les femmes qui ont rallié le drapeau de la France libre. J'étais en Angleterre au lendemain de l'armistice, lorsque le général de Gaulle lança son premier appel. Je l'entends encore dire « Rien n'est perdu pour la France. Les mêmes moyens qui nous ont vaincus peuvent faire venir un jour la victoire. »
L'amiral Muselier, qui est le premier officier général à rallier le général de Gaulle, qui était le chef des forces françaises navales libres, à qui on doit la Croix de Lorraine d'ailleurs, en hommage à son père qui était lorrain, et Muselier donc voit que là il a une recrue extraordinaire et surtout qu'il y a encore trop peu d'hommes à s'engager dans la France libre. Donc il va falloir faire la pointe avec des femmes.
Simone Mathieu est reçue par l'amiral Muselier, sans doute le 20 ou le 21 juin. Un engagement précoce auprès du général de Gaulle.
Elle est certainement la première. Elle ne vient pas là en tant que sportive. D'ailleurs, la France libre ne fait que peu de cas du sport. On n'engage pas quelqu'un parce qu'il est sportif, on l'engage parce qu'il est patriote. Et c'est une patriote. Dans un article d'un journal qui s'appelle France, qui date du 11 décembre 1940, elle dit
« Un triple idéal a toujours guidé ma vie. Dieu, ma patrie, ma famille. » Mais ma patrie vient avant ma famille. Et c'est pourquoi je n'ai pas hésité, le cœur déchiré, à me séparer de mes deux enfants qui sont restés là-bas, à ne plus les revoir, jusqu'au jour où les forces françaises libres, dont je suis fier de porter l'uniforme, auront libéré la France avec le concours des armées alliées.
Là est résumé encore l'origine de l'engagement de Simone Mathieu. Elle ne le dit pas après la guerre. Elle le dit le 11 décembre 1940. Elle a déjà parlé deux fois à la BBC, non pas en tant que championne de tennis, mais en tant que femme. Et en disant, nous n'avons pas à nous plaindre, nous, femmes, en Angleterre, puisque vous, femmes de France, vous avez des dommages matériels beaucoup plus graves que les nôtres, la vie quotidienne est terrible. Et effectivement, elle a cette rareté de ne pas mettre son passé sportif en avant. La France libre l'utilisera un tout petit peu, mais sans plus. La France libre préfère utiliser plutôt des icônes comme Jacques Cartier, Jeanne d'Arc, des icônes de l'histoire et du passé, que des sportifs.
Passons maintenant de Londres au Caire, où l'appel du 18 juin trouve aussi un écho dans la vie de René Davély.
Là, René Davély est quelqu'un qui répond quasi immédiatement, c'est-à-dire on est en juin-juillet 1940.
Olivier Loube.
Et elle cherche très très vite, elle va être la 171e parmi les Français libres à s'inscrire. Et ce qu'on trouve aussi dans les documents de nos jours, c'est qu'elle serait la première femme en Égypte à s'engager parmi la France libre.
René Davély, dans son rapport au ministère de l'Information, le 13 novembre 1944. Au lendemain de l'effondrement politique de la France, en juin 1940, le prestige de notre pays fut soumis à une dure épreuve. En Égypte, où je me trouvais à cette époque, l'historique appel lancé par le général Charles de Gaulle eut un retentissement considérable. Oui, la France venait de perdre une bataille. La France n'avait pas perdu la guerre.
Pour quelle raison René Davély, expatrié en Égypte, fait-elle le choix du général de Gaulle plutôt que du maréchal Pétain ?
Alors, dans l'équation personnelle de René Davély, famille catholique, on l'a dit, après tout, un milieu peut-être pas si différent de celui du général de Gaulle, au passage. Hein, c'est-à-dire, c'est une droite catholique qui est attachée à la patrie. Voilà, le terreau est là et ça fait un déclic. Je pense que son premier épisode en Amérique du Sud, où elle incarne la France, a compté dans la conscience qu'elle avait d'elle-même d'être une partie chantante, culturelle, de la France, particulièrement au 14 juillet, etc. Donc il y a chez elle, incontestablement, certainement revivifié par ce passage 38-39 à l'étranger, une conscience d'être une patriote.
Une patriote exilée dans un pays lointain et complexe.
Qu'est-ce que c'est que l'Égypte en 1940 ? C'est un lieu où, effectivement, elle fait un choix, parce que l'ambassadeur de Vichy au Caire va rester en poste jusqu'au début de 1942. Parce que les autorités égyptiennes ménagent Vichy. Alors certes, dès le début de la guerre, les autorités égyptiennes rompent les relations diplomatiques avec l'Allemagne et l'Italie. Et l'Italie en Égypte, c'est pas rien, c'est le plus gros contingent avec les Grecs d'étrangers sur le sol égyptien. Mais pas, évidemment, avec la France de Vichy. Il faut vraiment attendre le début 42 pour ça, alors même que les Anglais, évidemment, très tôt, s'engagent et combattent les attaques italiennes en Égypte.
Ayez en tête que si l'Égypte est indépendante depuis 1922, elle reste sous forte influence anglaise et que les combats avec les armées de Mussolini s'engagent très vite.
Il y a une offensive italienne par la Libye toute proche, la Tripolitaine, disait-on à l'époque, et qui vient jusque sur le territoire égyptien.
C'est la guerre, hein, il faut
le dire. C'est la guerre qui démarre, et dans cette guerre-là, le choix de la France libre n'est pas une évidence. Donc là, il y a un engagement de René Davlirel, mais il est quand même un choix qui est, tout à fait possible, parce que la plupart des notables français sur place, en particulier tous ceux qui sont liés au canal, et qui est un canal qui est en co-exploitation franco-britannique jusqu'en 1956.
Canal de Suez. Hein.
Le canal de Suez, bien sûr. Très tôt, sera lié à la France libre. Le général Catroux, qui est sur place, qui est l'ancien gouverneur de l'Indochine, une personnalité de poids, qui sera lié à De Gaulle, à la France libre, juillet 1940. Donc il y a un ralliement très précoce. Donc il va y avoir une sorte de cohabitation entre le pouvoir représenté par l'ambassadeur français et, autour de Catroux, d'une France libre très tôt constituée. Et donc voilà pourquoi elle adhère, elle fait un choix, mais elle adhère à quelque chose qui se constitue très vite, très fort, très gaulliste.
Le moment était grave. Le sort du monde démocratique était étroitement lié à celui de la France. Dans ces circonstances pénibles, je me posais cette question. Que puis-je faire pour la France ? Certes, la guerre a toujours ses héros anonymes, mais une femme, que pouvait-elle faire ?
Revenons en France, où l'armistice, signé avec l'Allemagne le 22 juin, soulage une grande majorité de Français.
Bon, en attendant, c'est ma tournée. À la paix !
Et puis vous allez avoir des hommes et des femmes qui ne veulent pas se laisser faire, ne veulent pas entériner la défaite. Il faut souligner, et c'est, me semble-t-il, un point important, qu'aucune force institutionnelle n'appelle à la résistance. Ni l'armée, ni l'Église, ni le Parti communiste, ni le Parti socialiste, ni la droite, ni les nationalistes. Les nationalistes qui pourraient, au contraire, être les premiers à appeler à la résistance. Eh bien, ces grandes institutions se taisent. Ce qui veut dire que cette proto-résistance jaillit du néant. Elle va être faite par ce qu'on appellerait, nous, aujourd'hui, des hommes et des femmes de la société civile.
Je voudrais servir la France, par n'importe quel moyen.
Donc ça, je pense que c'est quand même tout à fait intéressant sur le regard que l'on peut porter sur la France. C'est-à-dire, pourquoi, d'abord, c'est un général qui est quand même un général de seconde zone, le général de Gaulle, qui appelle à la résistance. Pourquoi on n'a aucun grand intellectuel, et Dieu sait que la France n'en est pas avare, pourquoi on n'a pas un appel de Gide, pourquoi on n'a pas un appel de Claudel, pourquoi on n'a pas un appel de ses personnalités, pourquoi on n'a pas un appel de Léon Blum, pourquoi on n'a pas un appel de Charles Maurras. Voilà. Donc cette résistance, qui est une proto-résistance, elle va être faite par des gens jaillis du néant. Donc cela montre, si vous voulez, que la France est un grand pays, puisqu'elle trouve les ressources nécessaires. Il y a dans ce terreau français des hommes et des femmes suffisamment lucides et courageux pour créer un embryon de résistance, mais en même temps, ce ne sont pas ce qu'on appellera assez rapidement les élites qui sont ici à l'initiative de cette proto-résistance.
Nous ne sommes plus des hommes si nous acceptons le régime de Vichy. On les foutra dehors, les Boches.
Alors, la résistance, c'est quelque chose dont on parle après coup, mais on a du mal à se figurer que au début, il n'y a pas de prérequis, il n'y a pas de préexistant, il n'y a pas de jurisprudence, et c'est quelque chose qu'il faut inventer à son échelle personnelle, selon son imagination, selon son courage aussi, et selon ce qu'on peut supporter en termes de degré de l'occupant.
Et au registre de cette proto-résistance, Geneviève de Gaulle s'inscrit avec un geste symbolique.
Pour Geneviève, qui on l'a vu est quelqu'un de très éveillé au danger du nazisme, de très patriotique, donc exaspéré par l'occupation du pays et par la faiblesse de Pétain, ce qui va l'énerver, c'est sur le pont de Rennes, un drapeau, un fanion à croix gammée.
Geneviève de Gaulle, témoignage recueilli par Maya Wechsler dans Sœurs en résistance. Je me souviens que la première chose que j'ai faite, c'est d'arracher un petit drapeau qui était sur un pont à Rennes, sur une rivière qui s'appelle la Vilaine. C'était un fanion avec une croix gammée. Ça m'énervait de voir cette croix gammée, là, à chaque fois que j'empruntais ce pont. Et bien un jour, j'ai décidé de l'arracher.
On est donc dans vraiment ce qu'on pourrait appeler la proto-résistance, c'est-à-dire une résistance extrêmement individuelle et qui ne s'inscrit pas dans une démarche construite pour aboutir à un objectif précis, mais qui est une réaction, quelque chose qui est plus fort que soi, mais qui va permettre ensuite de passer à un stade différent. Et c'est cette résistance des petits gestes qu'on retrouve chez un grand nombre de femmes et qui va ensuite permettre l'accès à un degré plus construit de la résistance.
Après l'installation des troupes allemandes à Paris et la division de la France en plusieurs zones, la famille de Mila Racine, famille juive, décide durant l'été 1940 de passer en zone sud.
On est aujourd'hui le 27 février 1997. Je mène une interview avec Madame Sacha Racine Meidenberg. On est à Paris en France. L'interview se déroule en français. On est sur la cassette numéro 1.
Interviewée par la Fondation Spielberg en 1997, Sacha Racine, épouse Meidenberg et sœur cadette de Mila, se souvient de cet exode en famille.
Mon père ne conduisait pas, nous n'avions pas de voiture. Mais j'avais plein de cousins Racine, ils avaient une usine de métallurgique, des camions, des machins. Et mon cousin Naoum Racine a ramassé tous les membres de la famille qui existaient, on devait être une vingtaine. Il a téléphoné à tout le monde, il a pris les deux camions de l'usine et sa voiture et il a emmené une vingtaine de personnes pour quitter Paris.
Pourquoi on roule plus ?
Parce qu'il y a trop de monde, tu vois bien.
Moi, j'ai soif.
Et puis on est arrivé à Pau avec plein de cousins, plein de gens. Et à Pau, on avait des amis qui avaient loué une grande villa, mais vide, sans rien. Alors on a tous dormi par terre. On n'a jamais autant ri de notre vie. On avait une cousine qui avait emmené une robe de chambre très élégante et qui s'est mis des crèmes et des trucs et des machins. Puis on s'est couché par terre. On ne se rendait pas compte de ce qui nous attendait, mais j'en ai un souvenir absolument tordant. Et en fin de compte, toute la famille est arrivée à Toulouse.
Alors à Toulouse, la famille va s'installer dans deux villas, côte à côte.
L'historienne Zoé Grimbert.
Dans une villa, il y a toute la famille proche de Mila. Et cette maison va être un lieu de rencontre. Il faut savoir que Toulouse, à ce moment-là, est une ville qui accueille énormément de réfugiés, notamment des réfugiés juifs. Et une personne va leur rendre visite, c'est David Knuth. Et David Knuth va leur faire part de son inquiétude et estimer que les Allemands vont s'en prendre aux Juifs, y compris les Juifs français, y compris les Juifs anciens combattants. Il en parle dans la maison lors de cette rencontre et dans les jours qui suivent, il publie un pamphlet qui alerte sur ce qu'il peut se passer et qui appelle à une résistance juive. Et à cette époque-là, là on est à l'été 1940, David Knuth va être à l'origine de la création d'un des premiers groupes de résistance juive qui s'appelle la Main Forte ou Main Forte, qui invite les Juifs à s'engager et à résister. Alors on ne sait pas du tout si Mila y adhère, mais en revanche, ce qui est important, c'est qu'elle entend, elle écoute, elle apprend des choses à ce moment-là auprès de David Knuth. Et ça a une importance dans son parcours parce qu'elle va être sensibilisée à ce qu'il a pu dire et on verra qu'elle rejoindra ensuite un mouvement issu de la Main Forte. Mais ce n'est pas le cas à ce moment-là.
Retenez que nos cinq personnages, quel que soit leur ressort personnel, font immédiatement le bon choix à l'été 1940. Un choix qui se traduit par des actes d'insoumission précoces.
Je voudrais servir la France par n'importe quel moyen.
Quand on s'intéresse à l'histoire de la résistance au féminin, on s'aperçoit que l'engagement des femmes se caractérise par sa précocité. Comment s'explique cette spécificité ?
Il me semble que si on se reporte aux conditions des femmes à l'époque, cela peut s'expliquer parce que environ la moitié des femmes étaient au foyer à l'époque. C'est-à-dire beaucoup plus qu'aujourd'hui.
Claire Andrieux, historienne.
Ce qui veut dire que la moitié des femmes avaient une culture politique spécifique. Celle qu'on peut se créer quand on passe sa journée à s'occuper des enfants et du ménage et autres tâches matérielles. Et on n'a donc pas le temps de lire, de se cultiver. Par conséquent, on a un rapport aux faits politiques assez simple. C'est conforme à ma morale ou ça ne l'est pas. Et de ce fait, si ce n'est pas conforme à ma morale que mon village soit occupé par les Allemands et que les récoltes de mon mari doivent partir pour moitié ou plus dans les wagons allemands, eh bien, je vais dire non, très vite. Et sans me préoccuper de mes réseaux professionnels, comme le fera un homme qui est dans un métier, qui se dit, mais mon Dieu, est-ce que je vais garder mon emploi, que va penser mon patron, etc. Donc il y a une espèce de liberté de la femme au foyer, et de simplicité de l'analyse. Mes enfants ont faim, très vite, hein, le rationnement arrive à l'automne 40. Mes enfants ont faim, ce n'est pas moral. Et de ce fait, on peut... C'est difficile à démontrer de près, mais on peut postuler que les femmes ont une prédisposition à résister dans ces circonstances qui va être plus marquée que les hommes. Et d'ailleurs, cela s'observe dans un certain nombre de cas. Et alors, en plus, pour certaines activités de résistance, les femmes sont en première ligne, notamment quand il s'agit d'aider à l'évasion. Le fugitif, quel qu'il soit, qu'est-ce qu'il cherche ? Il cherche de quoi manger, de quoi boire et de quoi être abrité la nuit. Donc il frappe aux portes. Et qui est à la maison ? Ben, c'est la femme au foyer. Et dans la campagne, c'est la femme du fermier. Et donc elles sont les premières à prendre une décision qui est décisive. Parce que si elles ouvrent la porte, elles se trouvent enfreintes une ordonnance de l'occupant qui est radicale. C'est la peine de mort pour abriter des soldats ennemis. Et donc l'engrenage commence là. Dans toute leur spontanéité, ces femmes deviennent résistantes parce qu'elles ont ouvert la porte. C'est une histoire qui a touché la France entière, une proportion très notable de la population française et qui n'est jamais devenue une histoire à l'échelle nationale. C'est-à-dire que c'est à peine mentionné dans les manuels, ça ne fait pas partie du roman national.
Elles ont ouvert la porte parce qu'en plus, le mari, bien souvent, n'est pas là.
Oui.
Les prisonniers de guerre ou sur le front quand la guerre n'est pas encore finie. Donc évidemment, elle est seule avec ses enfants et elle doit prendre une décision toute seule.
Voilà. Et ou bien le mari est au champ. À partir du moment où une femme a une activité qui ne ressort pas de la vie quotidienne établie, elle a une autonomie. Parce que nourrir des évadés, c'est difficile, surtout sous l'occupation. C'est une activité spécifique. Les nourrir, les vêtir, il faut des habits civils... Les cacher, et ça leur donne une véritable autonomie. Et même, c'est autre chose, mais pour les jeunes femmes qui donc cachaient de jeunes hommes, des histoires d'amour pouvaient éclore. Et là aussi, évidemment, élargir la marge de manœuvre de ces jeunes femmes.
Qu'est-ce que vous avez fait de mes affaires ?
Je les ai lavées. J'ai pas le temps de tout repasser, vous les aurez ce soir.
Où est-ce que vous avez planqué mon pistolet et ma grenade ?
On verra ça plus tard.
Tu peux avoir de la confiture ?
Oh, il y en a plus, on l'a fini. Ça, ce sont les dernières biscottes. Non, tu t'assois là, toi. Tiens. Allez, servez-vous.
Pour illustrer ces évasions de soldats, organisées par les femmes dès l'été 1940, revenons à Lucie Aubrac.
Eh bien, Raymond Samuel a été fait prisonnier, comme vous le savez, plus d'1,5 million autres soldats et officiers français.
Laurent Douzou.
Il est donc prisonnier de guerre, il est à Sarrebourg, et elle ne peut pas envisager un instant qu'il demeure prisonnier de guerre, lui non plus d'ailleurs. Donc elle se rend à Sarrebourg, elle prévoit de quoi lui permettre de se changer, de changer de vêtements. elle distrait la sentinelle et elle réussit à le faire évader. Alors c'est pas du tout une évasion comme celles qui auront lieu ultérieurement, mais enfin ça montre tout de même la détermination à la fois de Lucie et de Raymond Samuel, parce que beaucoup de prisonniers de guerre pouvaient penser en août 1940 qu'ils seraient libérés assez rapidement. C'est une option que Raymond Samuel n'a pas voulu envisager, et sa femme non plus. Il pouvait pas supporter d'être prisonnier de guerre, et donc, j'irais d'un commun accord, là encore on voit la parfaite osmose entre les deux, ils ont fait en sorte de fausser compagnie à leur joli Allemand.
J'ai réussi à faire passer à la caserne un médicament qui lui a donné une fièvre énorme, de là il est parti à l'hôpital.
Lucie Aubrac, 1992.
Et de l'hôpital, je me suis débrouillée pour le voir, je lui ai passé le costume civil, et la nuit même, il a fait le mur, habillé en mécanicien des chemins de fer, et le lendemain, nous avons regagné Paris.
Mais sous la férule des Allemands, Paris est devenu irrespirable pour le couple Samuel.
Nous passons la ligne de démarcation en Fraude, ce qui n'est pas difficile, parce qu'il y avait une ligne en Saône-et-Loire, et la Saône-et-Loire est mon département d'origine, je connaissais tout le monde. À Montceau-les-Mines, j'avais beaucoup d'amis, nous sommes passés par les bois, et nous sommes retrouvés à Lyon, où il a été démobilisé officiellement.
Alors ce couple qui s'est retrouvé, après l'évasion réussie de Raymond Samuel, se réfugie à Lyon, à quoi ressemble leur vie, Laurent Douzou, en zone sud à l'automne 1940 ?
Dans la vie du couple Samuel à Lyon à partir de l'automne 1940, c'est d'abord une vie plus protégée qu'en zone nord. C'est pour ça qu'ils sont passés en zone sud, parce que, vous l'avez dit, Raymond Aubrac est juif et donc un danger pèse sur lui. Donc ils ont préféré aller à Lyon. À Lyon, ils s'installent et ils s'installent, je dirais, dans une existence d'apparence bourgeoise. C'est-à-dire que lui, il est ingénieur, travaille comme ingénieur à Lyon. Dans un premier cabinet, mais il est licencié parce qu'il est juif. Et puis ensuite, il va travailler sur l'aérodrome de Bron. Donc il a un travail très régulier. Quant à elle, elle est professeure agrégée. Et à partir de la rentrée de 1941, elle sera au lycée de jeunes filles de Lyon. Donc leur vie, en apparence, est une vie parfaitement, j'allais dire, ordinaire et normale.
Durant cet automne 1940, Laurent Douzou, Lucie Samuel va croiser un ancien collègue de Strasbourg qui s'appelle Jean Cavaillès. Pourquoi cette rencontre est-elle cruciale à l'automne 40 entre cette Lucie Samuel et Jean Cavaillès ?
La rencontre entre Lucie Samuel, Jean Cavaillès, mais aussi Emmanuel Dacier de la Vigerie, Georges Zerafa, qui est un des fondateurs de la Ligue internationale contre l'antisémitisme. Cette rencontre, elle est décisive parce que Lucie, dès cette époque-là, veut, comme on dit à l'époque, faire quelque chose. Mais elle est avec son mari, ils sont tous les deux isolés à Lyon. Que faire et comment ? Eh bien, à Clermont-Ferrand, elle rencontre des gens qui, avec elle, vont former un premier noyau, petit noyau. C'est Germaine Tillion qui employait cette expression de noyau pour parler des premières rencontres entre des gens qui voulaient faire quelque chose. Et je dirais que, du coup, ils ne sont plus seuls. Ils se rendent compte qu'ils pensent d'une certaine façon, mais ils rencontrent des gens qui pensent de la même manière qu'eux, et ils vont tenter de faire quelque chose. Alors ils vont d'abord se fixer des objectifs assez chimériques. Ils vont vouloir punir des collaborateurs, notamment des journalistes collaborationnistes, Henri Béraud, Horace de Carbuccia, mais ils n'ont pas les moyens de le faire, et donc très très vite, ces tentatives vont échouer. Et ils vont se replier sur ce qu'on appellera ensuite la propagande-diffusion, c'est-à-dire essayer de contrebattre la propagande du gouvernement installé à Vichy. Et pour ça, ils vont d'abord faire des inscriptions à la craie sur les murs, puis imprimer de petits papillons, c'est de tout petits bouts de papier sur lesquels il y a un slogan très très court qu'on colle la nuit en essayant de ne pas se faire prendre par la police. Puis ils vont faire des tracts.
Adi, je t'ai ramené du carbone. Presque neuf.
Il y a un nouveau tract à taper en cet exemplaire.
Oui. Et donc, c'est pas traite, c'est traître.
Mais ils se rendent compte que tout ça est insuffisant, c'est éphémère, ça ne laisse pas vraiment de traces. Et donc, ils vont penser très vite à créer une feuille clandestine, un journal clandestin. Et ça sera le journal Libération de Zone Sud, dont le premier numéro paraîtra en juillet 1941.
À l'automne 1940, Lucie Aubrac réfléchit à faire quelque chose contre les nazis. Et dans le sud-ouest de la France, Mila Racine se prépare elle aussi à passer à l'action.
En septembre 40, Mila et sa sœur Sacha vont passer 2 semaines à Moissac. Donc Moissac, c'est à 80 km de Toulouse. Qu'est-ce qu'elles vont faire à Moissac? En fait, la direction nationale des éclaireurs israélites de France y a transféré son siège à la suite de la fuite de Paris et y organise un camp de formation intensive pour les jeunes juifs, de 2 semaines. Matin et soir, les jeunes juifs vont se réunir pour chanter des chants patriotiques juifs, faire du sport, avoir des cours d'histoire juive, de Talmud aussi, de langue hébraïque, de littérature yiddish, de sionisme, bien sûr, sous la houlette de quelqu'un qui joue un rôle important et dont on aura l'occasion de parler, Simon Lévite.
Et en remontant, on inspire bien jusqu'au fond des poumons et on garde. 1, 2, 3, 4, 5.
Quand on n'est pas bien dans son corps, on ne peut pas être bien dans sa tête. Mens sana in corpore sano.
Et l'idée de cette formation, c'est de dire qu'il va falloir faire quelque chose. On ne sait pas encore quoi. Est-ce que on prépare un départ? Est-ce qu'on prépare la lutte en France? Comment on va le faire? On ne sait pas. Mais en tout cas, il faut s'y préparer physiquement, mentalement et aussi spirituellement. Et c'est ce que fait ce camp scout, si l'on peut dire, à Moissac, au mois de septembre. Mila y participe et on peut estimer que le mois de septembre est une sorte de moment de bascule, si on veut, pour elle. Et à partir de ce moment-là, elle semble prendre conscience qu'elle veut agir et qu'elle souhaite s'engager. Et qu'en tout cas, il faut faire quelque chose. Sa sœur Sacha aurait dit dans un témoignage que Mila, lors de son anniversaire, c'est son anniversaire ce mois-là, a gagné en maturité, une maturité plus inquiète, et qu'elle semble avoir perdu une forme d'innocence, l'innocence de la jeune fille qu'elle était, pour devenir en fait une jeune femme qu'on peut qualifier de militante.
Et puis arrive le mois d'octobre 1940. À peine 3 mois après avoir liquidé la République, Philippe Pétain promulgue un statut des Juifs.
En bas, je jure sur l'honneur que je ne suis ni juif ni franc-maçon. Date et signature, merci. Les certificats de baptême, j'en aurai besoin avant la fin de la semaine. N'oubliez pas.
Chez les familles qui ont déjà connu l'antisémitisme, qui ont vécu des trajectoires d'immigration, qui vivent de nouveau une forme de fuite au moment de l'exode, il y a cette inquiétude. Pas chez tous, cela dit, parce que c'est vrai que certains juifs ont pu avoir une confiance dans la France, notamment parce qu'ils étaient anciens combattants, parce que la France avait défendu les juifs, parce que la France, pour les juifs étrangers, c'est l'affaire Dreyfus. Donc l'affaire Dreyfus, c'est un moment où la France se déchire sur le sort d'un juif. C'est pas n'importe quel pays. Et ça, ça a une valeur importante pour beaucoup de juifs qui ne pensent pas que la France pourra se retourner contre eux. Mais pour certains, l'urgence est déjà là. Certains en prennent conscience tôt. Et je pense que c'est le cas de Mila Racine et que ça s'inscrit dans son engagement sioniste et dans ses sociabilités militantes qu'elle entretient depuis les années 30.
De son côté, à Londres, Simone Mathieu, elle aussi, veut faire quelque chose. Et elle a obtenu le droit, auprès de l'amiral Muselier, de créer un corps militaire féminin au sein de la France libre.
Très bien. On dirait que nos troupes s'étoffent.
On imagine l'âpreté de la discussion entre Muselier, l'amiral Muselier et le général de Gaulle. De Gaulle ne voyait pas les femmes, évidemment, habillées avec, par un uniforme, et pourtant il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix, et on peut penser aussi que les Anglais, peut-être Churchill en personne, a agi dans le sens de Simone Mathieu, qui avait proposé vraisemblablement la création d'un corps des volontaires françaises au sein de la France libre. Donc c'est ainsi qu'elle se retrouve à trouver des femmes qui arrivent en Angleterre, les réunir au sein d'un corps de femmes volontaires de tous âges, de toutes conditions sociales. Et alors, elle a, on est au mois de novembre, au début du mois de novembre 1940, immédiatement un matricule, le matricule 70 000, qui est le matricule de Simone Mathieu dans la France libre. Et l'aventure commence.
Simone Mathieu, dans le magazine France, le 11 décembre 1940. Dans cette armée de la France libre, nous avons, nous, femmes, revendiqué et obtenu notre place. Le corps féminin, que j'ai honneur de commander, permettra d'affecter à des unités combattantes de nombreuses femmes qui sont actuellement dans les divers services qui brûlent de combattre.
En conclusion de ce troisième épisode, ayez en tête qu'à la fin de l'année 1940, nos cinq femmes refusent en bloc le régime de Vichy et comptent bien s'engager dans le combat, chacune à leur manière. Des comportements qui illustrent la spontanéité et la précocité de l'engagement des femmes dans la résistance française.
Marcel m'a dit que tu voulais devenir agent de liaison.
Tu ne dis même pas bonjour.
Ajoutons aussi le courage, car la France s'enlise un peu plus dans la honte et la mort.
Français, j'ai rencontré jeudi dernier le chancelier du Reich.
Philippe Pétain, 30 octobre 1940.
Une collaboration a été envisagée entre nos deux pays. J'en ai accepté le principe. Les modalités en seront discutées ultérieurement.
Comment nos cinq femmes ont-elles affronté le début du règne des nazis en France ? C'est l'horizon du prochain épisode. Les Résistantes, un récit de Philippe Collin, réalisé par Juliette Medevielle. Lecture, Romane Boringer, Laure Calamy et Anna Mouglalis. Assistance éditoriale, Irène Menahem, assistée de Léonie Ferré. Documentation sonore, Frédéric Martin. Mixage, Basile Bocquer et Cédric Diallo. Prochain épisode, La Chape de Plomb. Les Résistantes est un podcast original de France Inter.